Deutsche Welle. Pulsation.
Bonjour, c'est Alain Mabankou et vous le savez, vous écoutez Pulsation.
L'écrivain congolais Alain Mabankou qui nous parlera notamment de ses souvenirs d'enfance. Dans ce magazine, il sera aussi question des femmes et de la journée qui leur est consacrée chaque année. Et pour terminer, un peu de musique métissée qui jette des ponts entre trois continents. Bonjour à toutes et à tous, c'est Aude Gensbittel au micro. Vous êtes prêts? Ça va pulser.
Le saviez-vous?
La journée internationale de la femme. Chaque année, le 8 mars, les femmes sont à l'honneur dans le monde entier. Mais pourquoi consacrer une journée spéciale à un groupe qui représente la moitié de l'humanité ? Eh bien, parce que ce groupe, à travers l'histoire, a très souvent été victime d'inégalités et de discriminations, et que c'est encore le cas aujourd'hui. L'objectif de cette journée, c'est donc de rendre hommage aux réalisations des femmes, d'appeler au respect de leurs droits et de faire un bilan des progrès réalisés. Depuis quand existe cette journée internationale ? C'est en 1977 que l'ONU a reconnu le 8 mars comme journée pour les droits de la femme. Mais ses origines remontent au début du XXe siècle, une période où ont lieu de grands mouvements ouvriers et sociaux en Europe et en Amérique du Nord, et où les femmes manifestent pour obtenir le droit de vote. Le thème retenu par les Nations Unies pour le 8 mars 2015, c'est l'autonomisation des femmes. Dans certains pays comme la Russie, le Cameroun ou encore le Burkina Faso, la journée de la femme est un jour férié. Enfin, messieurs, ne confondez pas la journée de la femme avec la Saint-Valentin. Plutôt que d'offrir des fleurs et des chocolats à votre compagne, reconnaissez son travail, ses efforts et son rôle crucial dans la société. Rencontre à présent avec l'écrivain congolais Alain Mabankou. Le roman « Demain, j'aurai 20 ans » d'Alain Mabankou est paru cette année en allemand aux éditions Liebeskind. L'écrivain congolais, qui vit aujourd'hui entre Paris et Los Angeles, vient d'effectuer une tournée en Allemagne pour présenter son livre. Un livre qui raconte le quotidien de Michel, un garçon d'une dizaine d'années, dans la ville de Pointe-Noire à la fin des années 1970. Alain Mabankou nous explique tout d'abord pourquoi il a choisi de raconter une histoire du point de vue d'un enfant.
Ben parce que peut-être aussi l'adulte avait beaucoup trop parlé et que l'enfant voulait donner sa version, puisque la plupart de mes romans, c'était en général des personnages plutôt adultes et majeurs. Et puis j'estimais qu'au bout d'un certain moment, il fallait que je puisse aller visiter un peu cette enfance-là. Donc la voix de l'enfant s'était imposée pour ne pas avoir de la distance dans la narration.
Ce sont vos propres souvenirs d'enfance qu'on peut retrouver dans ce livre-là, non ?
Ah oui, absolument, ce sont mes souvenirs d'enfance, parce que c'est, je ne sais pas comment certains font pour inventer leur enfance, mais moi je vais les prendre dans leurs émotions, donc ces souvenirs qui sont là. Et après, il y a l'organisation des personnages, comment les faire entrer, comment les faire sortir, qu'est-ce qu'ils vont dire, jusqu'où ils peuvent aller. Là, ça devient maintenant le travail de l'écrivain.
Demain, j'aurai 20 ans. On rencontre dans ce livre-là le petit Michel qui a une dizaine d'années. Alors l'histoire se passe à la fin des années 1970. On est au Congo, après l'indépendance, à Pointe-Noire. Et il y a beaucoup d'humour dans ce livre-là, dans la voix de Michel. Il est en quelque sorte initié au communisme par son oncle. Sauf qu'il y a des choses qu'il comprend un petit peu de travers avec sa petite tête d'enfant. Et il fait des erreurs qui sont très drôles pour le lecteur quand il parle par exemple de faire table basse du passé ou encore... opium du peuple, c'est pas un concept qu'il maîtrise complètement.
Oui, parce que à cette époque-là, on nous donnait peut-être des informations qui étaient au-delà de notre compréhension. On nous parlait du marxisme sans qu'on sache ce que ça voulait dire. On nous parlait du matérialisme historique, on ne savait pas ce que ça voulait dire, mais on pouvait en parler pour épater les amis. Et dans ce livre, tout va dans tous les sens à cause de l'incompréhension du gamin.
Bon, on sent qu'il n'est pas complètement idiot quand il décrit comment est son oncle qui prêche le communisme, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une belle voiture, une télévision, la climatisation, etc. Il le dit lui-même, j'ai appris, on peut être communiste et riche.
Oui, parce qu'on dit aux enfants, oui, les communistes, c'est les gentils, les capitalistes, c'est les mauvais, les communistes, ils ont tout en commun, les capitalistes, ils ont chacun en individualité. Donc, par voie de conséquence, quand il voit son oncle, tonton Renaud, qui a des voitures, qui a une belle maison, et que chez lui, il n'y a rien, donc il se dit, il n'est pas méchant, donc il est communiste. On peut être riche et communiste dans ce sens. Et puis, c'était aussi pour dire que le capitalisme n'est pas forcément une réalité occidentale. Il existe un capitalisme africain qui date de longtemps, avec les sociétés traditionnelles, fondées sur aussi la propriété, donc pratiquement les mêmes choses.
Un grand événement dans la vie de Michel, c'est quand son père rapporte une radiocassette à la maison, et vous décrivez le rôle de la radio. À ce moment-là, vous l'avez vécu comme ça, vous aussi, d'avoir les actualités, une fenêtre sur le monde par la radio?
Oui, c'est la radio qui nous ouvrait les portes. Et pas n'importe quelle radio, parce que si vous ouvrez la radio congolaise, c'est le président qui va parler avec ses discours. Mais si vous vous mettez sur la Voix de l'Amérique ou dans une radio française, ils vont dire des choses qui vont nous choquer, nous les Congolais, en se disant comment ils osent appeler notre président dictateur alors que c'est le père de la nation, il a inventé ceci, cela. Donc la radio était un moyen de regarder dehors. Mais le régime, le gouvernement faisait de sorte que le peuple revienne à la radio nationale qui était une radio de propagande.
Et on voit aussi, c'est intéressant, la vue de l'histoire, enfin de l'actualité de l'époque du petit Michel, par exemple le sort du Shah d'Iran ou Didi Amindada, et comment lui prend ça d'un côté ou de l'autre, qu'il aime l'un, qu'il aime pas, son interprétation en fait.
Oui, je voulais aussi jouer un peu avec l'histoire qui était la nôtre à l'époque. Quand j'avais 10-12 ans, c'était l'époque d'Idi Amin Dada, c'était l'époque en France du président Valéry Giscard d'Estaing. Le Shah d'Iran, de l'autre côté, n'avait pas un lieu pour prendre l'exil. L'ayatollah Khomeini était aussi là, voulait le pouvoir. Et on avait ce moment exceptionnel où on donnait, je crois, le prix Nobel à de la paix à Mère Teresa, et que le petit narrateur, le mien, était indigné parce qu'on n'avait jamais donné le prix Nobel au président de la République qui a quand même fait des grandes œuvres au Congo. Mais c'est pas grave, nous on se disait le vrai prix Nobel était le cœur et l'engagement qu'on lui donnait. Je regardais ces événements historiques qui ont touché la plupart des pays africains à cette époque et j'ai trouvé que c'était la façon la plus directe d'évoquer ces choses, faire vivre cela dans la tête d'un enfant. Comment à 10 ans on percevait l'information à cette époque-là?
Il y a aussi beaucoup de références à la littérature française dans le roman, alors que ce soit Proust, que ce soit Victor Hugo, Rimbaud. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a nourri, vous aussi, la littérature française, quand vous étiez petit?
Oui, ça m'a nourri beaucoup et on ne pouvait citer que ce qu'on avait beaucoup connu à l'époque, puisque c'était vraiment les programmes français, les auteurs français, les bibliothèques, c'était toujours les écrivains français. Donc, je pense que la littérature française nous a permis d'ouvrir d'autres portes, puisqu'on ne lisait pas forcément la littérature africaine. Et en entrant dans la littérature française, on avait compris qu'il manquait quelque chose, le témoignage de l'Afrique quelque part. Et peut-être que la littérature africaine est née aussi parce que la littérature française parlait à notre place.
Est-ce que ça a changé, ça, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on lit dans les écoles au Congo? On lit Alain Mabankou, on lit des auteurs africains?
Eh bien, curieusement, je ne suis pas au programme chez moi, mais au Bénin. Vers Cassé, chaque septembre, tous les collèges, tous les lycées, c'est obligatoire. Mais chez moi, peut-être que je peux comprendre, parce que de temps en temps, j'ai quand même tendance à lancer quelques pics souvent dans les régimes, puisque c'est dans Vers Cassé, on dit le mensonge était gros comme la résidence secondaire d'un dictateur. Et puis Vers Cassé a une scène que tous les Congolais aiment bien, même si ce n'est pas au programme, c'est quand le président cherche une formule pour rester dans la postérité. Et il réunit son conseil et puis on lui cherche une formule. Donc on évite toujours Vers cassé au Congo, mais c'est un livre qui circule bien là-bas, puisque quand ils ont joué la pièce au centre culturel, qui comptait je sais pas, 700 places, c'était rempli pendant tous les mois, même chose au Sénégal. Puis c'est toujours plus honorable d'être célébré ailleurs que forcément chez moi, où on allait dire oh oui, mais c'est normal, on l'a mis, c'est l'écrivain congolais dont on parle en Europe. Mais les Béninois, considérés quand même comme le Bénin, considéré comme le quartier latin d'Afrique.
Merci beaucoup, Alain Mavankou.
Merci beaucoup.
Coup de projecteur.
Stéphane attendait l'événement depuis 5 ans déjà, voilà chose faite. Le musicien sénégalais Cheikh Lo est de retour avec une toute nouvelle chanson qui cartonne déjà en Allemagne. Degui, enregistré avec la chanteuse brésilienne Flavia Coelho et l'accordéoniste français Fixi. Deux nouveaux titres sortiront fin mars, notamment un duo avec la chanteuse malienne Oumou Sangaré. Et l'album complet de Cheikh Lo, lui, est prévu pour le mois de juin. C'est la fin de ce numéro de Pulsation. Au revoir et à bientôt.